Et donc le journal est présenté par Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Des centaines de milliers de jeunes, des collégiens, des lycéens, des étudiants ont fait la grève des cours hier et défilé massivement dans les rues à travers le monde pour appeler à l'éveil des consciences et surtout à la responsabilité des hommes politiques, sommés d'agir en urgence contre le changement climatique. Reportage à Montpellier et à Pretoria en Afrique du Sud dans ce journal. Et puis nous ferons réagir Noël Mamère, votre invité des matins du samedi, Caroline Brouet.
Oui, ce sera notre invité pour parler évidemment de questions climatiques, mais avant cela, nous entendrons l'historien spécialiste de l'extrême droite, Nicolas Lebourg, qui réagira, lui, à la façon dont les choses se sont passées en Nouvelle-Zélande hier et à ses attaques contre deux mosquées de Christchurch.
Et dans ce journal, nous irons en Algérie, où là aussi la jeunesse reste en première ligne des manifestations de masse pour réclamer un changement de régime. Reportage de notre envoyé spécial, Seyd Seguir. Et puis en France, les conférences citoyennes prennent le relais du grand débat. Elles sont organisées depuis hier. Notre reporter Anne Fauquemberg a assisté aux premiers échanges hier à Orléans. Des centaines de milliers de jeunes ont défilé dans le monde pour appeler les gouvernements à agir en urgence contre le changement climatique hier. À Montpellier, près de 6000 lycéens ont manifesté. Cela faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un rassemblement aussi fourni. Les jeunes, portant une multitude de pancartes, ont défilé des jardins du Pérou jusqu'à la place de l'Europe. Ils demandaient des actions rapides et fortes pour lutter contre le changement climatique. Louise Thomann.
Une demi-heure avant le début de la manifestation, le Pérou grouille déjà de lycéens survoltés. Chacun avait amené sa pancarte avec des slogans pleins d'imagination.
Mettez du plastique dans les Kardashians, pas dans les océans.
Arrête de niquer ta mère, en référence à l'océan.
Quel vœu pour Parcoursup ? Survivre. Arrêtez de manger de la viande, mangez les lobbyistes.
C'est un crime contre l'humanité !
Le réchauffement climatique, un crime contre l'humanité ? Cette formule choc, c'est pour faire réagir, expliquent Clara et Nora, lycéennes de Montpellier qui manifestent pour la première fois.
C'est un appel au gouvernement pour ainsi les faire réagir.
Il n'y a pas que les habitants qui doivent s'en occuper par des petits gestes quotidiens, le recyclage et tout ça. Il faut aussi que le gouvernement y comprenne que c'est vraiment maintenant qu'il faut changer pour passer aux énergies renouvelables. Comme ça, on a un futur assuré, quoi.
Comme beaucoup de ses camarades, Lola n'est pas allée en classe. Mais pour elle, sécher les cours, ce n'est pas le problème.
On reproche aux jeunes de ne pas s'intéresser à la politique. Mais quand on s'implique justement, on nous reproche d'agir sous prétexte qu'on veut sécher les cours, alors que manif ou pas manif, si on veut sécher, on veut sécher, alors que là, c'est aucun rapport. Il faut vraiment qu'il y ait une cohésion de masse pour que tout le monde se sente concerné et puisse agir dans l'intérêt général.
Le rendez-vous est pris, ils iront aussi à la marche du climat organisée cet après-midi à Montpellier.
Cette deuxième mobilisation pour le climat est en effet organisée aujourd'hui à 14h sur l'esplanade Charles de Gaulle à Montpellier. Il s'agit de la mobilisation intitulée « La marche du siècle » qui est prévue un peu partout en France pour demander au gouvernement des mesures concrètes et immédiate. Mais hier, la grève des jeunes pour le climat a retenti dans le monde. 15 000 à 20 000 manifestants à Berlin, selon les chiffres de la police. Le mouvement citoyen Compact a parlé de la plus grande manifestation pour le climat de l'histoire de l'Allemagne. 50 000 personnes en Australie, en Afrique du Sud aussi, qui figurent parmi les plus mauvais élèves dans la lutte contre le réchauffement climatique. Eh bien, les collégiens, lycéens et étudiants aussi sont sortis dans les rues de Pretoria. Reportage sur place, signé Noé Auchamaudin.
Devant le bureau de la présidence, lycéens et étudiants demandent au gouvernement d'agir d'urgence. Un de leurs professeurs, Chris Engelbrecht, est aussi présent.
L'impact sur l'Afrique du Sud sera deux fois plus important que dans le reste du monde. On voit déjà que l'on perd beaucoup de notre production de maïs, non pas à cause d'une sécheresse, mais parce qu'on ne peut même plus planter du maïs.
La sécheresse a pourtant déjà frappé, l'an dernier, le Cap, la deuxième ville du pays, est passée tout près de la catastrophe. Un déclic pour les tabous lycéennes de 17 ans.
C'était un déclencheur. Car pas grand monde n'était conscient de ces enjeux. Il y a eu du changement depuis. Les écoles essaient d'éduquer les enfants sur l'environnement. Cette marche peut aussi permettre d'interpeller. Les gens ne veulent pas voir une nouvelle sécheresse dans les années à venir.
Le péché mignon sud-africain, c'est surtout le charbon qui compte encore pour plus de 85% de sa production d'électricité. Robin, étudiant en géographie, reste pourtant optimiste.
Ça va être difficile de changer ses habitudes à court terme, particulièrement dans notre pays. Je ne sais pas si les réformes seront rapides, mais nous n'avons pas tellement le choix.
L'Afrique du Sud a été citée dans un rapport de Greenpeace l'an dernier, comportant la région la plus polluée au monde, avec 12 centrales à charbon dans un périmètre d'environ 200 km.
Noé Auchamaudin à Pretoria pour France Culture. Noël Mamère, bonjour.
Bonjour.
Ancien député Europe Écologie Les Verts, vous êtes bien sûr très sensible à ces manifestations et grèves de la jeunesse à travers le monde. Vous y reviendrez largement avec Caroline Brouille à 8h30 sur France Culture. Mais avant cela, en quelques mots, quel est votre sentiment par rapport à cette mobilisation de la jeunesse ?
d'une grande espérance. Il est en train de se constituer une sorte de conscience écologique planétaire. C'est une victoire culturelle pour la génération à laquelle j'appartiens, et c'est aussi un espoir de se dire que cette action qui est menée par la jeunesse, c'est-à-dire par le bas, par la société, peut avoir une influence sur les décideurs, qui ne sont pas simplement des décideurs politiques, mais avoir une influence sur tout ce qui est de l'ordre des grands lobbies qui préfèrent les profits à court terme plutôt que la survie de la planète et de ceux qui l'habitent. Donc je crois qu'il faut encourager ces jeunes à battre le pavé, que ce soit à Pretoria, à Paris ou à Berlin, et leur dire que c'est sur eux que nous comptons et sur leur mobilisation pour essayer de réparer les dégâts que nous avons commis.
Merci Noël Mamère. Je vous propose maintenant d'évoquer un autre sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Il s'agit des droits de l'homme, il s'agit de la Syrie et du retour en France des enfants de djihadistes. C'est un rapatriement qui a été organisé dans le plus grand secret et qui a surpris tout le monde hier. Le rapatriement de plusieurs enfants de djihadistes français exfiltrés de Syrie par des soldats français avec l'appui des forces démocratiques syriennes. En tout, 5 enfants, tous orphelins, ont été exfiltrés et amenés en France car ils étaient dans une situation très vulnérable, sans parents, sans protection, a communiqué hier le Quai d'Orsay, Sophie Parentier.
Un bébé d'un an, hospitalisé avec des blessures d'éclats d'obus au visage, ses 2 grands frères de 3 et 5 ans, 2 autres fillettes sans lien de parenté, âgées de 4 et 5 ans. Les 5 orphelins rapatriés de Syrie hier par un avion militaire français sont de très jeunes enfants. Lydie Maninkeda est la grand-mère de 3 d'entre eux, de 3 petits garçons pour lesquels elle avait lancé des appels médiatiques désespérés ces dernières semaines. Ce matin, elle remercie le président Macron de son humanité, dit-elle, soulagée de savoir que ses petits-enfants sont désormais en sécurité, confiés pour l'instant à l'aide sociale à l'enfance, sous la surveillance de juges des enfants et de médecins.
C'est une grande joie pour nous, pour mon mari et moi, de les savoir donc maintenant en sécurité en France. L'essentiel, c'est qu'ils soient rentrés, qu'ils ne soient plus dans ce camp. C'est ce qu'on attendait de la part de l'État et on remercie l'État français de nous avoir entendus.
Lydie Maninkeda espère pouvoir embrasser très bientôt ses 3 petits-fils et elle reste solidaire, dit-elle, des dizaines d'autres grands-parents français qui ont encore leurs petits-enfants coincés dans des camps du Kurdistan syrien. Le gouvernement envisage d'autres retours au cas par cas d'enfants seuls sans leurs parents.
Noël Mamère, vous êtes toujours avec nous. Que pensez-vous du rapatriement de ces enfants orphelins de djihadistes en France ?
Je pense que c'est nécessaire. Ce sont des enfants français. S'ils sont partis en Syrie avec leurs parents, c'est qu'il y a des raisons qui ne sont pas simplement celles qui consistent à rejoindre le djihad, mais parce qu'ils étaient dans des conditions telles dans notre pays que ça a provoqué leur départ dans cette partie du monde et leur lien avec tout ce qui est de l'intégrisme islamique. Donc il est normal qu'ils reviennent en France et que l'on s'occupe d'eux maintenant et que l'on permette leur, d'une certaine manière, leur renaissance pour leur intégration dans notre destin collectif parce qu'ils sont français.
Et concernant les parents d'enfants qui sont actuellement en Syrie, les parents djihadistes qui sont partis en Syrie,
enfin, Écoutez, nous sommes dans un état de droit. Et dans un état de droit, on doit s'intéresser à chacun de nos ressortissants. Même si ses parents sont partis en Syrie, ils doivent être jugés en France et on ne peut pas se permettre, parce que c'est le principe de l'état de droit, on ne peut pas se permettre de les laisser soumis à une justice à laquelle nous ne croyons pas. Donc, c'est le principe qui fait que, dans un état de droit et dans une république, on préfère la justice aux représailles.
Merci Noël Mamère, invité des matins du samedi avec Caroline Brouet. Vous restez avec nous. En Nouvelle-Zélande, l'homme de 28 ans, militant d'extrême droite australien, auteur présumé de l'attentat qui a fait 49 morts dans 2 mosquées hier, a été inculpé ce matin pour meurtre. La première ministre néo-zélandaise s'est engagée quelques heures plus tôt à durcir les lois sur le port d'armes, car ce suprémaciste militant raciste était équipé d'armes semi-automatiques acquises légalement. Jacinda Ardern a aussi confirmé que le terroriste, comme les 2 complices présumés qui ont été arrêtés, n'était pas surveillé par les services de renseignement. Le premier ministre avait pourtant publié en ligne un manifeste évoquant des projets d'attentats anti-musulmans. Et tout à l'heure, toujours dans les matins de Caroline Brouet, Nicolas Lebourg, spécialiste de l'extrême droite, sera l'invité sur France Culture.
Sur France Culture, il est 8h09 et c'est la suite de votre journal. Une nouvelle démonstration de force hier en Algérie. Des Algériens avec une manifestation manifestations, enfin même plusieurs manifestations dans tout le pays pour un changement du système politique.
Oui, à Alger, ils étaient des centaines de milliers de personnes pour ce quatrième vendredi de contestation consécutif, alors que le pouvoir algérien a annoncé la création d'un nouveau gouvernement sous l'égide du nouveau Premier ministre Noureddine Bédoui. Les Algérois pensent déjà à la future transition politique. À Alger, le reportage de notre envoyé spécial, Saïd Seguir.
Des milliers de personnes défilent dans les rues d'Alger dans un flot ininterrompu et jamais ne cessent les slogans et les chants dans une énergie communicative. Au croisement d'une rue, Omar, un ingénieur de 49 ans, regarde cette grande marche avec des étoiles dans les yeux. À ses côtés, comme tous les vendredis depuis 4 semaines, ses deux filles, Fifi, 14 ans, et Asma, 24 ans, qui déjà pensent au futur, comment les choses peuvent évoluer dans les prochaines semaines.
On espère vraiment trouver quelqu'un qui va nous représenter et qui va parler au nom du peuple. Par exemple, ils ont choisi Bédoui comme Premier ministre. Franchement, Bédoui ne nous représente pas. En fait, ils font tous partie du même clan.
Asma partage avec son père, Omar, le même sentiment. La transition politique qui s'annonce ne sera pas facile. Elle prendra du temps, mais elle réussira.
On a l'exemple de la Tunisie, de l'Égypte. On sait ce qu'il faut prendre et rejeter ce qu'il ne faut pas. Tous ces jeunes-là, à mon avis, sont conscients. Et ils vont faire par tous les moyens d'éviter cet amalgame de « on ne sait pas où on va ». Si, on sait où on en va, vers un pays de démocratie. C'est un langage universel, on doit le suivre et c'est tout.
Si rien ne change, Omar et ses deux filles reviendront vendredi. D'ici là, les étudiants pourraient organiser une nouvelle manifestation mardi prochain.
Tous des fainéants, les fonctionnaires.
Au Venezuela, un journaliste allemand a été libéré hier après 4 mois de détention au siège du service des renseignements à Caracas. Mais Billy Six, 32 ans, devra pointer à un tribunal tous les 15 jours, ont annoncé 2 associations vénézuéliennes. Il était en détention depuis le 17 novembre dernier. Hier aussi, le Polonais Thomas Surdel, correspondant du quotidien Gazeta Wyborcza, a accusé, lui, la police vénézuélienne de l'avoir passé à tabac à Caracas avec un simulacre d'exécution. Au nord du Venezuela, en Afrique centrale, cette fois au Nicaragua, 50 prisonniers politiques ont été libérés hier soir sur décision du président Daniel Ortega en négociation pour sortir de la très grave crise politique. C'est la 2e libération massive d'opposants ayant participé à des manifestations contre le régime après 100 prisonniers libérés le 27 février dernier. Mais selon l'opposition, il resterait encore près de 600 prisonniers politiques dans les prisons du régime.
Après le grand débat, place maintenant aux conférences citoyennes.
En tout, 7 conférences régionales se tiennent depuis hier partout en France. Il y en aura 7 autres le week-end prochain. Pendant 1 jour et demi, les citoyens tirés au sort à partir de bases de données téléphoniques sont réunis pour dialoguer sur les 4 thèmes issus du grand débat. L'objectif, c'est de fournir des propositions plus construites que celles qui ont pu émaner dans les réunions d'initiatives locales ou sur la plateforme Internet. À Orléans, 72 personnes de la région Centre Val-de-Loire ont commencé hier leurs travaux, des travaux sous forme d'ateliers par petits groupes thématiques, Anne Fauquemberg.
Sur chaque thème, il s'agissait tout d'abord de faire apparaître un diagnostic libre avec des points positifs et négatifs. Exemple avec le sujet de la transition écologique ou comment chaque groupe est obligé de faire émerger un « nous » au moment de la première restitution.
On rejoint un peu la table là-bas. C'est-à-dire que notre point positif, c'est une prise de conscience de l'urgence à agir pour la planète. Et le problème, le désengagement de certains États qui ne sont pas la France.
Un facilitateur aide chaque personne à trouver sa place. Expérience intéressante pour Patrick, libraire à Blois, même si...
C'est une journée et demie, c'est quand même assez long, c'est prenant. On se prend la tête d'ailleurs, il faut vous dire ce qui est sur les thèmes. Là, c'est la fiscalité, donc c'est déjà un petit peu moins drôle que prévu. Mais néanmoins, je pense que c'est important quand même de participer.
Nadia Belaoui, l'une des garantes du grand débat, observe. Elle reconnaît que ces échanges demandent patience et écoute.
On est dans de la délibération, avec une méthodologie précise qui permet un aller-retour entre son propre vécu, des données, la prise en compte par le débat d'avis contradictoires. C'est inédit dans une vie, effectivement. Le débat politique se fait traditionnellement en famille.
Et l'objectif sera de faire émerger 10 à 12 propositions concrètes et collectives d'ici ce soir.
Reportage signé Anne Fauquemberg du service politique de France Culture. Le temps, du soleil sur la moitié sud du pays, un temps gris sur la moitié nord, mais pas de pluie annoncée ce matin à l'exception de la frontière belge. Attention au risque d'avalanche sur les Alpes du du Nord aujourd'hui. Les températures ce matin sont douces, 7 à 16 degrés selon Météo France, avec 7 degrés à Clermont-Ferrand, 8 degrés à Chambéry, 9 à Besançon, 11 degrés à Paris, Lille et Limoges, 12 degrés à Lyon, 15 à Nîmes et jusqu'à 16 degrés maximum pour Saint-Raphaël.